La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Communautariste. Le mot relève quasiment de l'injure dans le vocabulaire politique de notre si fière d'elle-même République. Communautarisme comme le nom d'une maladie exotique importée des États-Unis, where else? Sauf que la réalité du communautarisme américain n'a que peu de choses à voir avec l'épouvantail que se plaît à mettre en une certaine presse bleu-blanc-rouge à l'effigie d'une Marianne mythologique et droite dans ses bottes. Cette réalité du communautarisme américain mérite mieux que ses caricatures façon causeur toujours. Elle mérite, pour commencer, une enquête sérieuse. C'est précisément ce à quoi s'est attelé le politiste Julien Talpin à Los Angeles, une ville dont l'image demeure ici en France fortement marquée par les émeutes de 1992, alors qu'elle apparaît depuis, notamment grâce au community organizing, s'être affirmée comme le plus inventif des laboratoires d'une forme de renaissance du politique. Julien Talpin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques au CNRS, au CERAPS, à l'Université de Lille. Vous êtes aussi le co-rédacteur en chef d'une nouvelle revue de sciences politiques, Participation. Et vous publiez aux éditions Raison d'agir, dans la collection Cours et travaux, Community Organizing, de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux États-Unis. Alors je faisais juste à l'instant référence à ces émeutes de 1992, après le tabassage de Rodney King, émeutes considérables dans cette ville qui ont été médiatisées dans le monde entier et auxquelles cette ville reste dans l'imaginaire collectif mondial attachée. Pourtant, la réalité a changé, elle change souvent assez vite dans cet état de Californie, dont on parle aussi beaucoup à cause du numérique, mais là c'est plutôt San Francisco, du mouvement des makers, je pense au livre récent de Michel Lallemand là, sur le sujet. Mais vous êtes allé voir ce qui s'est passé à Los Angeles, vous êtes allé en fond 20 ans après ces émeutes, pour faire un petit peu un bilan de la situation politique. Et au lieu de trouver finalement une ville qui serait le théâtre d'une guerre de tranchées entre communautés d'origine ethnique, géographique, selon les revenus, etc., une ville d'inégalité, ce qui est le cas, vous avez trouvé une ville en mouvement, une ville dans laquelle, même si c'est encore un peu timide, les inégalités baissent, par exemple. Et vous y avez trouvé notamment des expériences politiques d'un genre relativement nouveau dans ce pays qui n'a pas la même histoire que le nôtre en termes de mouvement social, on va dire, Julien Talpin.
Alors effectivement, les émeutes de 1992 ont été un tournant historique assez important pour la ville de Los Angeles, puisque il y a eu une sorte de prise de conscience d'un certain nombre de militants, d'acteurs politiques locaux qui se sont dit il faut faire quelque chose quand même pour à la fois reconstruire ces ghettos et permettre aux différents groupes qui les habitent, et notamment les communautés noires et latino, de se mobiliser ensemble parce que les problèmes qu'ils rencontrent, d'emploi, de logement, d'éducation, sont communs. Et donc après les émeutes, il y a pas mal d'argent aussi qui arrive à Los Angeles pour reconstruire la ville et qui va permettre de s'organiser collectivement la création d'associations que moi j'ai pu suivre effectivement 20 ans plus tard. Et donc j'ai passé une année à Los Angeles en 2012-2013 à suivre au plus près, en fait, par la méthode de l'observation participante chère à la sociologie, ces organisations et à voir la façon dont ils parvenaient à mobiliser des gens qu'on a beaucoup de mal à toucher en France. Et moi, c'est ça qui m'a aussi un peu enthousiasmé, c'est de voir à quel point ils arrivaient à toucher, à mobiliser des centaines, des milliers d'habitants de ces quartiers qui, en général, sont condamnés au silence.
Alors, on va rentrer dans le détail de votre enquête. Vous allez nous raconter comment vous avez procédé, ce que vous avez vu, en quoi c'est intéressant, original, en quoi aussi ça peut être limité, ça pose des problèmes, ça peut faire émerger des contradictions. Mais avant d'en venir à l'enquête proprement dite, émeute de 92 qui ont marqué, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec ce qui s'est passé en France en 2005. Vous avez dit en 92, après 92, il y a eu de l'argent injecté, il y a eu des choses se sont produites dans ces quartiers. En France, on a le sentiment que après cette émeute de 2005, il ne s'est pas passé grand-chose et que la situation n'a pas véritablement évolué. Alors le parallèle est souvent cruel entre les deux situations nationales et peut-être aussi en raison de malentendus, de méprises qui ont trait à ce lexique, à ce vocabulaire que je pointais dans l'introduction de cette émission, d'expression, c'est-à-dire que par le mot de communauté, on entend en France tout autre chose. On se sert de ce mot pour faire peur, pour désigner finalement des nouvelles manières de cliver une population, là où la réalité américaine est sensiblement différente de cette image qu'on lit ad lib dans la presse française, Julien Talpin.
Alors ce parallèle avec les émeutes de 2005 en France, moi je le fais explicitement, puisque le point de départ de ma réflexion, c'est justement la situation française. Moi, ce livre porte principalement sur les États-Unis, mais moi je travaille également beaucoup sur l'engagement et la participation dans les quartiers populaires en France, notamment dans la ville de Roubaix, mais pas seulement. Et donc c'est aussi par rapport à des réflexions sur les difficultés de la mobilisation des habitants des quartiers populaires que j'ai voulu aller voir ce qui se passait aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui s'est passé en France après 2005? On a quand même investi beaucoup d'argent, mais dans les programmes de l'Agence nationale de rénovation urbaine, on a investi de l'argent dans les murs au fond, pour transformer le bâti, et je crois que c'est pas suffisant pour permettre la mobilisation des habitants loin de là. Alors il s'est quand même passé des choses, il y a des mouvements qui ont émergé, il y a quelque chose par exemple comme le forum social des quartiers populaires qui a existé un temps, il y a aujourd'hui une coordination des quartiers populaires passant nous qui s'est mis en place, avec l'idée aussi de fédérer des associations locales issues des quartiers populaires pour aussi monter en gamme à une échelle nationale, là où se jouent véritablement les décisions. Le problème, c'est que toutes ces initiatives, elles peinent à être soutenues, reconnues, et elles rencontrent pas mal d'hostilité des pouvoirs publics notamment, justement autour de cette question de communautariste, etc. Parce que pas mal de ces associations et de ces mouvements sont effectivement à l'image des quartiers. Elles regroupent pas mal de minorités racisées, pour le dire très concrètement, des Noirs et des Arabes, et des Noirs et des Arabes qui se mobilisent pour défendre les intérêts de la population de ces quartiers, qui sont aussi principalement, en partie, ça dépend des quartiers, descendants de l'immigration. C'est souvent mal vu en France.
Oui, alors qu'aux États-Unis, c'est tout à fait logique, et ça s'inscrit dans une tradition, au fond, de mouvements sociaux qui ont pris cette forme. Ce peut-être par quoi il faut commencer, c'est rappeler que quand on parle de communauté aux États-Unis, on pense d'abord à la dimension locale. C'est-à-dire qu'une communauté, c'est déjà le fait de partager un territoire avec des voisins, avec des gens qui habitent à côté de chez soi. Alors certes, ces gens ont souvent des caractéristiques communes avec vous. Ils peuvent avoir la même couleur de peau, ils peuvent avoir le même type de revenus, etc. Mais pas nécessairement. C'est d'abord la dimension géographique locale qui est importante dans ce mot de communauté et qu'on a tendance peut-être à oublier dans la vision française.
Alors, c'est vrai que la notion de communauté aux États-Unis est assez floue et mouvante. Elle renvoie à plein de choses différentes, mais d'abord au quartier. La communauté, c'est le quartier, la communauté locale. Et après, ça renvoie aussi aux liens de sociabilité que peuvent tisser les gens entre eux, qui reposent sur différentes associations, organisations. Les églises jouent un rôle important, les clubs de sport, etc. Et moi, je pense que c'est surtout, au fond, une communauté d'expérience, en fait. C'est l'expérience d'habiter un espace commun qui va créer aussi des communautés d'intérêt. Et c'est en ce sens qu'il faut, à mon avis, déconstruire la notion de communauté par rapport à la façon dont on la voit en général en France, qui est de façon un peu traditionnelle, vu comme quelque chose des communautés primaires, héritées plus que choisies, etc. Or, c'est pas comme ça qu'elle est vécue, en tout cas aux États-Unis. Communauté d'expérience, et notamment dans les quartiers populaires, c'est des communautés qui sont liées aux problèmes communs que vivent les habitants des quartiers populaires. Et un point également pour déconstruire un petit peu cette notion de communauté, c'est souvent associé, que ce soit aux États-Unis comme en France, cette idée de communautarisme au fait que les gens voudraient vivre entre eux. Il y a des formes de repli sur soi, d'entre-soi. Or, si on regarde l'histoire des politiques de logement et de peuplement des villes aux États-Unis, si les Noirs se sont retrouvés regroupés dans certains quartiers, c'est pas du tout par choix, c'est lié à des politiques publiques ségrégatives extrêmement fortes et pas du tout par volonté. Et les habitants, en tout cas ceux que j'ai pu interviewer dans le cadre de mon enquête, ne montrent pas particulièrement des envies de repli sur soi ou de vie ségrégée des autres populations, bien au contraire, et la réalité sur le terrain est assez éloignée de cette image-là.
Alors ces nouveaux mouvements sociaux apparus après 92 à Los Angeles, sur lesquels vous vous êtes penché, ils sont à la fois nouveaux et pas si nouveaux, c'est-à-dire qu'ils sont les héritiers d'une tradition américaine ancienne, et cette méthode de se mobiliser politiquement, que le community organizing, a une histoire qui remonte aux années 30 à la ville de Chicago. On peut dire que c'est aussi une sorte de sous-produit de l'école sociologique de Chicago à certains égards. Elle a été développée théorisé, on ose à peine le dire, parce que d'ailleurs vous insistez sur le fait que c'est assez peu théorisé, mais disons formalisé par quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky et dont on commence un petit peu à connaître le travail en France, qui a été une sorte de travailleur social, au fond, produit par cette école de Chicago. Et cette tradition a essaimé dans l'ensemble des États-Unis. Elle est très inscrite dans la culture politique, au point que le président Barack Obama a lui-même eu une expérience très importante, après avoir étudié à l'université, de travail social, et avant de revenir à l'université, puis de faire de la politique, de travail social à Chicago, selon la méthode classique d'Alinsky, qui fut pour lui, en quelque sorte, un maître politique.
Alors effectivement, c'est une tradition politique qui émerge dans les années 30 à l'initiative de Saul Alinsky à Chicago et qui s'est fortement développée depuis, dans la ville de Los Angeles particulièrement après 92 liées aux émeutes, mais on retrouve des organisations de ce type, c'est des associations, elles ont un statut associatif, il y en a une quinzaine à Los Angeles qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes, principalement des classes populaires, des habitants des quartiers pauvres, et donc on retrouve ça dans la plupart des villes américaines et même au-delà. Aujourd'hui, cette tradition est en train de s'exporter dans pas mal de pays du globe, et y compris aujourd'hui en France depuis quelques années.
Notamment à Grenoble.
À Grenoble, où l'Alliance citoyenne qui a lancé une expérience tout à fait intéressante depuis 2010. Et juste pour dire en un mot en quoi ça consiste, ce community organizing, on peut dire que c'est à la fois une méthode et un projet politique. Au fond, le projet, c'est d'accroître le pouvoir des classes populaires, de ceux qu'on n'entend pas, qui sont mal représentés à la fois par les partis politiques et par les syndicats. Et donc, il y a toute une partie de la population qui ne se retrouve pas. Et ça, je crois que ça parle beaucoup aussi côté français. Et c'est aussi une méthode. L'idée, c'est que pour accroître le pouvoir des classes populaires, il convient de construire des organisations de quartier au départ, mais pas uniquement à l'échelle du quartier, des organisations puissantes, autonomes, des sortes de contre-pouvoirs locaux. Et c'est ça, le community organizing, c'est la construction de contre-pouvoirs locaux où les gens peuvent s'organiser par eux-mêmes pour défendre leurs intérêts.
Alors, concrètement, vous êtes arrivé à Los Angeles en 2012, donc je disais 20 ans après Rodney King, mais comment vous avez procédé pour mener cette enquête? Vous êtes intéressé à trois organisations en particulier, qui sont différentes les unes des autres, qui appliquent pas tout à fait les mêmes méthodes. Qu'est-ce que vous avez vu, Julien Talpin, à Los Angeles?
Alors moi j'arrive, c'était relativement, j'ai eu de la chance, parce que j'arrive au début de la campagne présidentielle de 2012, et donc les campagnes
électorales. C'est de la réélection de Barack Obama.
Tout à fait. Et donc c'est un moment d'activité politique extrêmement intense, au-delà des élections présidentielles, il y a aussi beaucoup d'élections locales, des référendums aussi beaucoup en Californie. Et ces organisations communautaires, là en Californie, sont très ouvertes en fait à la venue de nouveaux bénévoles, etc. Et donc c'était un moment assez facile pour s'y intégrer. Le fait d'être français, par ailleurs, était plutôt une aide, dans le sens où s'ils peuvent parfois avoir un regard un peu sceptique sur les sociologues américains qui viendraient les observer comme des rats de laboratoire, le fait d'être étranger, j'étais
ça
pas très menaçant.
Ça justifie presque
pour
un peu plus le
ouais,
regard.
Ouais, puis il y avait ma curiosité, ça les intéressait. Et donc moi, j'ai donc passé un an sur le terrain avec eux à faire beaucoup de porte-à-porte, puisque c'est une méthode qui repose beaucoup sur le porte-à-porte, des réunions d'appartements, des réunions publiques. Il y a, on peut dire, trois piliers au community organizing. D'un côté, des méthodes extrêmement sophistiquées de mobilisation des habitants, partout ce travail de porte-à-porte, s'appuyer aussi sur les collectifs intermédiaires, aller chercher les gens dans les églises, les clubs de foot, les centres sociaux, etc. Il y a un travail de formation extrêmement important, puisqu'il ne s'agit pas simplement de faire sortir les gens de chez eux, mais qu'aussi ces habitants qui n'ont souvent jamais participé à aucune action collective mènent plus véritablement la danse, soit sur le devant de la scène. Et donc là, il y a un travail d'éducation populaire qui est très important. Et enfin, troisième pilier, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les classes populaires n'ont pas véritablement le temps d'attendre le grand soir, et donc il faut des avancées, des réussites, des victoires, ici et maintenant. Et donc j'ai pu suivre beaucoup de campagne sur des sujets divers et variés qui permettaient d'obtenir des avancées très concrètes.
Alors, vous distinguez deux, enfin, il n'y a pas que vous, c'est une réalité du community organizing, des méthodes qui s'appuient, qui se focalisent davantage sur l'individu, d'autres qui sont plus collectives. Ça, c'est l'un des traits caractéristiques, des différences qu'on peut voir à l'œuvre sur le terrain.
Alors, effectivement, il y a deux modèles, on peut dire, principaux. Il y a d'un côté le modèle qui est créé par Saul Alinsky lui-même, alors qu'on appelle en anglais broad-based community organizing, qui s'appuie en fait sur les collectifs intermédiaires qui existent dans les quartiers populaires. L'idée, c'est de dire que dans les quartiers, contrairement parfois à une image qui est un peu véhiculée, où on parle de crise du lien social, etc., il existe encore des espaces où les gens se rassemblent. C'est beaucoup les églises aux États-Unis, mais ça peut être aussi des petites associations, ce qu'on appelle des block clubs, ça peut être des clubs sportifs, etc., où les gens se regroupent, mais qui ont des activités peu politiques. Et donc,
on essaie de fédérer ça autour d'un intérêt qui est davantage politisé, en quelque
sorte. C'est à partir de ces différentes structures intermédiaires, on va les rassembler pour voir quels sont les problèmes qu'ils peuvent éventuellement rencontrer. Là, pour le coup, moi, j'ai pu suivre une campagne témoigne sur l'école, qui est un enjeu extrêmement important, et notamment la discrimination dont étaient victimes certains élèves dans les écoles des quartiers pauvres de Los Angeles, qui se retrouvaient de façon disproportionnée renvoyés en fait de leur lycée pour des raisons disciplinaires. Et là, ça posait des problèmes, puisque renvoyés de l'école, ils se retrouvaient à traîner dans le quartier, ce qui était souvent le début d'une trajectoire délinquante. Et là, du coup, ça s'est traduit par une campagne qui proposait de modifier les pratiques disciplinaires des écoles. Donc voilà pour donner un premier exemple.
Ça, c'est intéressant, parce que quand on pense tout de suite à la situation française, où face à ce genre de problème, on aurait tendance à se tourner vers le ou la ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire une position de pouvoir centralisé, très éloignée de la réalité locale, et donc finalement des attentes qui ne sont pas des attentes pragmatiques, comme celles qu'on voit aux États-Unis, qui se fixent pour objectif de changer les choses dans le quartier, tout simplement, ou dans l'école dont il est question.
Alors c'est lié aussi à la très forte décentralisation du pouvoir aux États-Unis. Là, pour le coup, l'interlocuteur, c'était, on peut dire, l'équivalent du rectorat de Los Angeles. Et voilà, et là, en l'occurrence, le pragmatisme s'est traduit, parce que eux, ils inscrivent ça dans une lutte beaucoup plus politique, beaucoup plus large, qui est à la fois celle de la réussite scolaire des gamins, et de lutter plus largement contre l'incarcération de masse des minorités, qui est un réel problème aux États-Unis. Mais l'idée, c'est de dire qu'il faut, ils disent « cut the issue », c'est-à-dire découper ce gros problème en petites campagnes gagnables qui permettent aussi de montrer aux habitants que ça vaut le coup de s'engager, au fond. Par cette première victoire sur les pratiques disciplinaires, ils ont pu engager derrière des campagnes beaucoup plus importantes, une campagne notamment que j'ai pu suivre à l'échelle californienne sur le financement des écoles dans les quartiers pauvres. Alors, ils ont notamment investi tous les mécanismes de démocratie directe. On ne le sait pas, mais la Californie est l'État, après la Suisse, qui a le plus recours au référendum. Et donc là, ils ont mis à l'agenda un référendum sur le financement des écoles des quartiers pauvres. Et de façon un peu surprenante, le référendum est passé, alors qu'il proposait d'augmenter les impôts des riches, notamment des 10% des contribuables les plus riches, ceux qui gagnent plus de 250 000 dollars par an, pour financer les services publics dans les quartiers. Et personne ne pensait que ça marcherait, parce que, en général, quand on demande aux citoyens d'augmenter leurs impôts, il est rare qu'ils disent oui. Et là, par tout un travail de terrain de plusieurs mois que j'ai pu suivre, ils ont réussi à contrer aussi la campagne médiatique qui était menée par notamment les Républicains, pour faire avancer cette proposition qui est passée, qui se traduit par 5 milliards de dollars supplémentaires par an pour les écoles public des quartiers pauvres. Voilà, donc c'est pas que des petites victoires. C'est-à-dire que par les coalitions et les alliances qu'ils créent, ils parviennent réellement à œuvrer à la redistribution des ressources en direction des classes populaires.
Mais j'imagine que ça suppose quand même l'existence préalable d'un espace public dans lequel on peut faire entendre ces choses-là, de médias locaux qui s'intéressent à ces campagnes, à ces causes, qui vont déjà, ne serait-ce que partager l'information autour de ces campagnes, toutes choses dont on ne dispose pas nécessairement dans le contexte français en particulier, Julien Talpin.
Alors effectivement, la différence, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, ces organisations existent depuis des décennies et elles ont pu se structurer et se fédérer à une échelle régionale, étatique, à l'échelle californienne et même nationale. Et une des phrases qu'ils répètent souvent, c'est « nous, on n'a pas d'argent », ce qui est un peu relatif parce qu'ils ont quand même des ressources par des fondations, « nous, on n'a pas d'argent, mais on a la force du nombre ». Et donc, ce travail à la fois de mobilisation des gens sur le terrain et de fédération à une échelle régionale, étatique ou nationale est un moyen d'être entendu. C'est-à-dire que quand on a des dizaines de milliers d'habitants qui très régulièrement se mobilisent, organisent des manifestations, des sit-ins devant la mairie ou le Capitole à Sacramento, par exemple, il est difficile pour les médias locaux de les ignorer.
Mais alors, qui sont ces gens qui s'engagent dans ce type de travail politique? Est-ce que vous avez pu en tirer des caractéristiques sociales, des parcours biographiques assez exemplaires, ou est-ce qu'on trouve une assez grande hétérogénéité parmi ce public?
Alors c'est hétérogène. Ce que je fais dans le livre, c'est justement de retracer la trajectoire de plusieurs, de pas mal d'acteurs. Il faut distinguer deux types d'acteurs dans le community organizing. Il y a les salariés, parce que c'est quand même tout ça est possible parce qu'il y a une infrastructure de salariés qui consacrent l'essentiel de leur temps à la mobilisation et la formation des habitants. Les salariés, c'est beaucoup des gens qui sont issus de ces quartiers, mais qui ont connu une trajectoire d'ascension sociale, qui ont fait des études, etc., et qui décident de revenir dans le quartier pour faire un travail plus politique. Une phrase qu'il dit souvent, c'est « give back to the community », donc rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des trajectoires d'ascension sociale, qui vivent leur vie, etc.
Donc ça s'est rendu possible aussi parce qu'aux États-Unis, il y a tout ce secteur qu'on appelle « non-profit organization », qui est au fond une sorte de tiers secteur, de monde salarial, associatif, beaucoup plus structuré, beaucoup plus professionnalisé d'une certaine façon que dans d'autres situations nationales.
Alors, tout à fait, le community organizing est une des formes que prend ce secteur associatif qui est assez largement... qui principalement fait du service en fait et peu politisé, et le community organizing est la frange politisée du secteur associatif américain. Et pour revenir sur la question des acteurs, donc il y a d'un côté ces salariés, d'un autre côté il y a les habitants, et là on retrouve d'un côté, donc l'objectif c'est de recruter ce qu'ils appellent des leaders naturels. Donc on commence par aller chercher les gens qui sont les plus facilement mobilisables, des forts en gueule d'une certaine façon, et donc des gens qui sont soit déjà un petit peu engagés dans les églises, les associations de quartier, etc., ou qui ont un peu une fibre. Mais l'idée de proche en proche, c'est d'élargir le cercle à des gens qui sont moins immédiatement sensibles à ces questions, et on retrouve des gens qui sont vraiment précaires. Une des critiques qui est parfois apportée au community organizing, c'est de dire « oui, mais ça ne touche que les plus méritants des pauvres, au fond ». Moi, ce que je montre dans mon livre, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et bon, j'ai des trajectoires, par exemple, d'anciens sans-abri qui deviennent des militants assez actifs sur le terrain, des gens qui, des sans-papiers aussi, qui ont une situation légale tout à fait difficile et qui néanmoins s'investissent très fortement. Et donc, ils arrivent quand même à toucher des gens qui sont en réelle précarité.
Alors, jusqu'à présent, j'ai fait un peu comme si, au fond, la question des discriminations raciales n'existait pas et comme si on était colorblind là-dedans. En fait, c'est évidemment pas le cas. Les discriminations raciales sont très très importantes et vous montrez bien la manière dont cette question, cette cause s'articule à d'autres et ce que vous appelez à la suite d'un certain nombre de travaux de sociologie aussi, de réalité politique, l'intersectionnalité, mm-hmm. hein, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont s'articule au fond ce critère là avec celui de la classe sociale ou avec celui mm-hmm. du genre par exemple.
Alors effectivement, au regard de la réalité, j'ai envie de dire, démographique des quartiers populaires américains, c'est-à-dire la classe et la race sont complètement imbriquées. C'est-à-dire que les habitants des quartiers pauvres aux États-Unis et la population la plus pauvre, ce sont les minorités raciales, et donc les Noirs et les Latinos en particulier. Après, tout l'enjeu de ces organisations, c'est pour ça que moi je dis que c'est souvent l'anticommunautarisme, c'est de rassembler ces gens, c'est de créer des coalitions interraciales.
L'anticommunautarisme au sens français du
terme. Au sens français du terme, tout à fait. C'est de créer des coalitions interraciales, rassembler Noirs, Latinos, Blancs, Asiatiques, etc. Aussi en partie des coalitions interclassistes, dans le sens où l'objectif, c'est de mobiliser les plus pauvres, mais il y a aussi des employés, des petites classes moyennes, des gens qui sont progressistes. Il y a de créer des ponts pour... quand on dit que la ressource principale, c'est le nombre, il faut ratisser large. Tout l'enjeu, c'est néanmoins que les classes moyennes ne prennent pas l'ascendant sur les classes populaires, que les blancs ne prennent pas l'ascendant sur les minorités ethniques, puisque l'idée, c'est que ce sont les premiers concernés qui doivent être sur le devant de la scène et mener les combats.
Alors vous avez observé au fond, vous preniez l'école comme exemple tout à l'heure, que toutes ces actions, un certain nombre d'entre elles, ont obtenu des résultats concrets, ont réussi à infléchir des politiques publiques. Mmh. Quel type de relations ces organisations ont-elles avec, je dirais, la politique professionnelle dans le sens le plus classique, c'est-à-dire les partis, mmh. bon, à l'échelle locale. La vie politique américaine n'est pas tout à fait comparable à la nôtre, mais néanmoins il y a des machines qui ne sont pas que des machines électorales non plus aux États-Unis.
Alors, la question est ambiguë, c'est-à-dire que principalement, comme je le disais, ce sont des contre-pouvoirs. Et donc, ils mettent en place ce qu'on peut appeler une démocratie d'interpellation. Leur objectif, c'est de demeurer autonome des pouvoirs locaux et des élus, et de les interpeller, de les rappeler à leurs promesses. Une des formes que ça prend, par exemple, c'est ce qu'ils appellent des accountability sessions, donc des sessions de reddition de comptes, où les élus doivent rendre des comptes à la population par rapport à leurs engagements, leurs résultats, leurs promesses. Et c'est un peu l'inverse des comptes rendus de mandat à la française, où l'élu vient raconter ce qu'il a fait et dire à quel point son bilan est génial. Là, c'est l'inverse.
Là, on est dans une culture de l'interpellation qui ressemble davantage au Question Time au Parlement à Westminster, mais ça, c'est très anglo-saxon plutôt que, effectivement, la logique française du haut vers le bas.
Tout à fait. Et donc, voilà, interpeller pour que les élus soient obligés, parce que quand on rassemble 10 000, 20 000, 30 000 personnes dans ces quartiers, d'un point de vue électoral, les élus ne peuvent pas non plus se permettre entièrement de les ignorer. Néanmoins, c'est un petit peu plus ambigu que cela, dans le sens où certains community organizers, les salariés en particulier, deviennent parfois, après quelques années, aussi ont envie de se lancer en politique et deviennent des élus.
Vous évoquiez tout à l'heure. C'est une voie de professionnalisation politique.
Ça peut être.
Ça peut l'être.
Vous évoquiez Barack Obama, mais il y a plein de Barack Obama à l'échelle locale aux États-Unis. Et ce qui n'est pas forcément vu d'un mauvais œil pour les organisations communautaires. Ils disent également que c'est quand même important d'avoir des alliés de l'intérieur. Quand bien même ils interpellent, avoir des gens qui peuvent entendre les revendications à l'intérieur des institutions, ça peut être utile d'un point de vue pragmatique.
comme ça a pu être le cas pour les syndicats d'ailleurs dans d'autres situations, un des modes d'accès à la politique professionnelle. En vous entendant, Julien Talpin, on se dit au fond que tout ce qui caractérise ce community organizing, cette nouvelle manière de réinventer la politique, contraste singulièrement avec ce qui est en train de se passer du côté de la place de la République avec Nuit Debout, où en fait c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est pas sur la base d'une communauté de quartier géographique, c'est pas du tout les habitants du quartier. Alors peut-être le seul point commun, ce serait l'envie d'éducation populaire, mais au-delà de ça, au fond, on a l'impression un petit peu du contraire comme réinvention de la politique.
Alors effectivement, pour moi, le community organizing est un peu l'anti-Nuit Debout, dans le sens où Nuit Debout est un mouvement qui, certes, n'est pas spontané, puisqu'il y a des organisations militantes, des réseaux derrière qui y ont joué, mais l'idée, c'est qu'en occupant une place, les gens devraient spontanément l'investir et s'engager. Là, à l'inverse, le community organizing part de l'idée que, au fond, les classes populaires sont dans une situation telle de précarité, de difficulté sociale, que si on va pas les chercher avec les dents, si on met pas énormément d'énergie et de moyens pour aller les chercher chez eux, dans le bus ou dans les écoles, il y a peu de chances qu'ils s'investissent. Donc c'est des choses un petit peu différentes. On peut néanmoins trouver des
on n'entend pas possibles. Non plus, enfin on voit bien la différence entre les grands discours sur l'avenir du capitalisme qu'on a pu entendre parfois dans la bouche d'économistes éminents, mais à Nuit Debout et les discours très pragmatistes, la manière de cut the issue, comme vous disiez tout à l'heure, des luttes du community organizing en Californie.
Alors les mouvements comme Nuit Debout, mais également on peut dire Occupy Wall Street ou Les Indignés, précisément, sont dans une position qui est de dire, nous on veut pas de revendications, puisque nous on s'attaque au principe même du système, et commencer à avoir des revendications, ce serait jouer le jeu d'un système qu'on veut précisément dépasser. C'est effectivement très différent du pragmatisme du community organizing que j'évoquais à l'instant. Il y a néanmoins des ponts qui sont possibles. Moi, j'ai suivi du coup les liens entre Occupy Wall Street et les organisations communautaires, et indirectement, il y a eu des alliances, ils ont participé un peu, les organisations communautaires ont un peu travaillé à Occupy, ils ont arrêté un moment sur une question, c'est intéressant d'ailleurs, il y a eu une division qui s'est faite sur la police. C'est de savoir, est-ce que la police fait partie des 99%? Et pour Occupy, c'était oui, parce que ils sont au fond quasiment des ouvriers du service public. Et pour les organisations communautaires qui rassemblent beaucoup de minorités, qui subissent les traitements policiers, les violences policières au quotidien aux États-Unis, c'était hors de question. Et donc ils se sont séparés là-dessus. Ce qui n'empêche pas que j'évoquais tout à l'heure cette campagne sur le référendum sur l'augmentation de la pression fiscale des contribuables les plus riches. La victoire, cette campagne-là, n'aurait probablement pas abouti s'il n'y avait pas eu un contexte idéologique qui est celui qui a été mis en place par Occupy, où on parlait des inégalités et auquel on peut rattacher également le succès de l'ouvrage de Thomas Piketty aux États-Unis ou l'écho que rencontre Bernie Sanders dans la primaire américaine aujourd'hui.
Merci beaucoup, Julien Talpin. Je rappelle le titre de ce livre passionnant qui décrit ses expériences politiques américaines, Los Angeles comme un laboratoire de la renaissance politique. Le titre du livre Community Organizing, de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux États-Unis, il est publié aux éditions Raison d'agir. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission, sur laquelle aussi, et je vous invite à le faire, vous pouvez vous abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer un épisode de la suite dans les idées. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Cyril Baer, à la technique aujourd'hui Philippe Mercher, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein et sa conversation scientifique que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.